France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyait la libération de 33 otages israéliens, mais 8 d'entre eux sont morts, révèle le gouvernement israélien. Nous joindrons William Delesseux à Tel Aviv. 80 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, 54 délégations internationales participent aux cérémonies sur le site de l'ancien camp nazi. Nous irons sur place. Nous écouterons aussi des paroles de rescapés qui, malgré leur grand âge, veulent encore témoigner. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunira demain en urgence pour évoquer la situation dans l'est de la RDC. Les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23 s'affrontent à Goma. Nous ferons le point avec Lucie Mouillot. La hausse du chômage se confirme en France. Le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 3,5% sur un an. Nous analyserons ces chiffres avec Annabelle Grelier. Sur le fond, ce n'est pas complètement une surprise, mais c'est malgré tout un choc en Israël. Sur les 33 otages israéliens enlevés par le Hamas dans la bande de Gaza et libérables dans la première phase de l'accord de trêve, 8 sont morts. Ce sont les autorités israéliennes qui font cette annonce. Elles indiquent avoir reçu une liste de la part du Hamas. On retrouve William Delesseux en direct de Tel Aviv. Bonsoir William.
Bonsoir Aurélie.
Israël rend donc officiel ce que beaucoup craignaient.
Oui, une liste attendue par les familles et par les autorités. Elle devait parvenir à Israël ces tout derniers jours et ainsi les médiateurs l'ont obtenue du Hamas. L'existence du document a été confirmée il y a près de 24 heures. Une partie de son contenu est maintenant officielle et les familles concernées informées. Israël n'a pas rendu public l'identité de chacun des otages, vivants ou morts. David Mentzer, porte-parole du gouvernement.
The list from Hamas matches Israel's intelligence.
La liste du Hamas correspond aux renseignements israéliens. Ainsi, je peux vous dire que 25 de nos otages sont en vie et que 8 ont été tués par le Hamas.
D'après la chaîne saoudienne Al Arabiya, le Hamas dispose des 8 corps et les restituera à Israël, en Israël, où chacun pense ce soir au visage de la famille Bibas, par exemple, une mère et ses 2 enfants, 4 ans pour l'un et 9 mois lors de leur enlèvement. Le Hamas avait annoncé leur disparition il y a plus d'un an dans des frappes israéliennes, ce que l'État hébreu n'a jamais confirmé. Et chacun ici préfère ainsi se projeter vers la date de jeudi, celle de la libération de nouveaux otages.
William Delesseux à Tel Aviv avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. L'Union européenne a conclu aujourd'hui un accord pour réactiver sa mission d'assistance au poste frontière de Rafah. Cela doit permettre à un certain nombre de blessés de quitter Gaza et de recevoir des soins médicaux. Par ailleurs, un flot ininterrompu de Gazaouis, hommes, femmes et enfants marchant avec leurs bagages ou poussant des chariots. C'est l'image aujourd'hui. Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés sont actuellement en route pour rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 a beaucoup nui à l'image d'Israël et contribué à une montée de l'antisémitisme. C'est dans un climat lourd qu'est commémorée la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 27 janvier 1945. D'importantes délégations internationales sont présentes avec des chefs d'État ou de gouvernement. On peut citer Emmanuel Macron, le roi Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais ça n'est évidemment pas l'essentiel. Bonsoir Agathe Mahué.
Bonsoir.
Vous êtes sur le site de l'ancien camp nazi, devenu symbole du génocide des Juifs par l'Allemagne nazie, et vous suivez la cérémonie. Ce sont avant tout les survivants qui sont mis en avant aujourd'hui, Agathe.
Oui, parce qu'ils ne sont plus très nombreux. Ces rescapés des crimes nazis, presque centenaires pour beaucoup. Une cinquantaine ont fait le voyage jusqu'ici, Oświęcim, cette petite ville polonaise, Auschwitz en allemand. Et ce sont eux qui viennent de s'exprimer ce soir, pas les chefs d'État que vous mentionniez. En effet, non, parole aujourd'hui à ceux qui bientôt ne seront plus là, ces témoins directs des crimes nazis. Ainsi, Léon Weintraub, 99 ans, a pris la parole pour raconter cette vie dans ce camp de Auschwitz. On nous a privés de toute notre humanité. Juste avant lui, une autre survivante, Tova Friedman, qui n'était qu'une petite fille de 6 ans quand elle a été enfermée à Auschwitz. Suis-je la dernière enfant juive encore vivante sur cette terre ? S'est-elle un jour demandé. Nous sommes ici, a-t-elle ajouté, pour proclamer et promettre que nous ne permettrons jamais, jamais à l'histoire de se répéter. D'autres rescapés pourtant ont mis en garde, comme cet homme mentionnant une énorme montée de l'antisémitisme, celui-là même qui a conduit à l'Holocauste. La cérémonie est en train de se terminer au son de cette prière que vous entendez, à la fois le Kaddish, cette prière juive de deuil, et un psaume chrétien. Des bougies sont allumées aussi dans le même temps, et le tout sous cette immense tente blanche qui vient envelopper le célèbre porche d'entrée de ce camp d'Auschwitz-Birkenau, éclairé ce soir d'une douce lumière rouge, le temps de cette cérémonie.
Agathe Mahué avec Gilles Gallinaro à la technique. Les rescapés qui le peuvent continuent de raconter leur histoire, mais 80 ans après la libération d'Auschwitz, les survivants susceptibles de témoigner sont de moins en moins nombreux. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Vous avez pu rencontrer deux d'entre eux, Esther Sénaud, âgée de 97 ans, et Léon Lefkowicz, 94 ans, originaires tous les deux de Pologne et installés en France depuis la libération. Ils ont participé au fil documentaire intitulé « Pourquoi ? Visage de la Shoah » qui sort en salle cette semaine.
Ils racontent leurs souvenirs et traumatismes. Léon Lefkowicz avait 14 ans quand il a été déporté.
Je me souviens parfaitement, quand on arrivait à Auschwitz, il y avait la séparation, les enfants étaient avec les femmes. Des Sonderkommando qui m'a pris par l'épaule, il me dit « Reste avec ton père ». C'est comme ça que je suis vivant peut-être. Mais ma mère a été tout de suite choisie pour, pas comme certains disent, tuée, pour être assassinée. Il y avait une sélection musclée. Et c'était le 7 octobre 44. On nous a amenés au crématoire, on nous a déshabillés. Puis tout d'un coup, les portes se fermaient hermétiquement pour que les gaz ne s'échappent pas. Et il s'est passé une chose extraordinaire, la révolte du Sonderkommando. On entendait des coups de feu, des cris, ils ont ouvert les portes, ils nous ont fait sortir. Et c'est comme ça que je suis devant vous, voilà.
Autre rescapée, Esther Sénaud avait 15 ans quand elle a été arrêtée à Paris, puis déportée de Drancy à Auschwitz.
Obligée de travailler pour espérer rester en vie, elle a fait une promesse à sa sœur Fanny en 1944.
J'allais la voir tous les jours dans sa baraque où elle travaillait. Et vers le 15 mars, j'ai trouvé ma sœur en train de cracher du sang. Elle avait été mordue par un chien, elle était infectée de partout. Alors je lui dis, Fanny, tu ne sors pas à l'appel, tu sais ce qui va t'arriver. Elle me dit, écoute, je suis arrivée au bout du rouleau. Elle dit, maintenant j'en peux plus, la guerre va bientôt finir, toi t'es jeune, t'as l'air de tenir le coup. Alors elle s'est soulevée légèrement, elle m'a prise dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, tu me promets que si tu as une chance de revenir en France, de raconter ce qui nous est arrivé, de raconter ce que les hommes sont capables d'avoir fait à d'autres hommes, et puis elle dit, surtout tu raconteras pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et puis elle s'est rallongée sur la paillasse, j'étais obligée d'aller travailler, et malheureusement quand je suis revenue, ma sœur était passée au crématoire. « Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher. »
Esther Sénaud, qui interprète souvent cette chanson des Marais, chanson des déportés, et Léon Lefkowicz témoignent tous les deux dans le film « Pourquoi ? Visage de la Shoah ».
Et le co-réalisateur Jean-Marie Montali estime que la mémoire de la Shoah est aujourd'hui menacée par l'oubli.
L'âge avançant, il se rend compte de l'urgence de témoigner, amplifié par la montée de l'antisémitisme depuis quelques années, et pas seulement depuis le 7 octobre, ils vivent jour et nuit avec ce souvenir et aussi avec les souvenirs qui leur ont été arrachés par les nazis. Ces gens-là se souviennent plus, par exemple, s'ils n'ont pas de photo du visage de leur maman ou de leur père. Les nazis leur ont volé ça aussi. L'enjeu, c'est la transmission, c'est indispensable. C'est cette phrase d'Elie Wiesel, si on connaît pas son histoire, on s'expose à ce qu'elle recommence. Donc il faut connaître son histoire. Parce que si on oubliait ces 6 millions de personnes, ça serait les tuer une deuxième fois. L'indifférence, c'est aussi une expression de la lâcheté. Et puis, vous savez, on parle tout le temps des Juifs comme des victimes. Je peux vous assurer que quand on les écoute et qu'on voit ce par quoi ils sont passés, pour survivre à ça, il ne faut pas être une victime, il faut être un vrai combattant.
Terre enfin libre, où nous pourrons revenir aimer.
Et à la sortie en salle de Pourquoi, visage de la Shoah, Aurélie s'ajoute un autre film intitulé Les derniers d'Auschwitz en accès libre sur Internet, avec les témoignages également de Léon Lefkowicz et Esther Sénaud.
Merci Benoît Grossin, et votre dossier complet sur les rescapés de la Shoah qui continuent à raconter l'histoire est en une du site internet de France Culture, à retrouver dans la rubrique L'info culturelle. Nous allons à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants du groupe armé du M23, soutenus par la mer rwandaise, ont pénétré dans plusieurs quartiers de Goma, à la frontière du Rwanda hier, et ils affrontent les forces congolaises dans la ville. À la frontière, quelques habitants de Goma affiliés aux Nations Unies ont pu être évacués ce matin. Lucie Mouyou s'est rendue à Gisenyi, ville rwandaise voisine de Goma. Écoutez son reportage.
À la grande barrière entre Goma et Gisenyi, une file d'agents civils congolais des Nations Unies et leurs familles traverse dès l'ouverture de la frontière. Aboubakar Bouta n'a pris qu'un sac d'affaires avant de partir de chez lui en vitesse.
À Goma, la nuit était catastrophique. Crépitement des balles. Heureusement pour moi, je suis allé résider dans les camps de la MONUSCO. Il y a les affrontements entre les M23 et les FARDC. La situation n'est pas du tout à fait bonne parce que les M23 occupent déjà une grande partie de la ville de Goma.
Au poste frontière, les agents de l'immigration congolaise étaient absents ce matin. Des bus attendent les arrivants pour les amener vers Kigali et quitter la ville de Goma, alors que les échanges de tirs et affrontements se sont poursuivis dans la journée.
C'est les agents de l'ONU qui nous ont fait passer. Si tu n'es pas avec les agents de l'ONU, vraiment, tu ne peux pas passer. Ils peuvent te cambrioler tout ce que tu as. Donc c'est les agents de l'ONU qui viennent de nous faire passer.
Des scènes de pillage et de vandalisme sont signalées dans la ville de Goma. Farel Kaboulou a réussi à atteindre la frontière avec sa famille.
Ça fait quand même mal de voir les gens mourir comme ça. Et aussi de voir les gens se déplacer comme ça. On nous oblige à quitter chez nous, nos maisons sont juste comme ça. Donc ça fait vraiment mal.
Au niveau de la zone frontalière, les échanges de tirs continuent. Plusieurs bombes sont également tombées dans la ville rwandaise de Gisenyi dans la journée, où 5 morts civiles ont été confirmées.
Lucie Mouyou à Gisenyi pour France Culture. L'Union européenne s'accorde sur une feuille de route pour assouplir les sanctions imposées à la Syrie. Ces mesures avaient été imposées au gouvernement de Bachar el-Assad et à des pans entiers de l'économie syrienne durant la guerre civile. Par la décision prise aujourd'hui, l'Union européenne veut montrer sa volonté d'aider à la reconstruction du pays ravagé par la guerre et de nouer des relations avec ses nouveaux dirigeants. La contestation ne faiblit pas en Serbie. 3 mois après l'accident mortel de la gare de Novi Sad, les étudiants manifestent presque tous les jours contre la corruption et les négligences du parti au pouvoir. Ce matin, ils ont entamé un blocage des routes de la capitale serbe pour 24 heures. C'est un mouvement inédit qui fait vaciller le régime du président populiste Aleksandar Vučić. Le reportage de Louis Seyé.
Comme des milliers d'étudiants, Jelena est arrivée à 10h à Autokomanda. Avec une amie, elle installe sa tente au beau milieu de cet échangeur du sud de Belgrade.
On a tout bien préparé pour le blocage. On apporte des tentes, de la nourriture, de l'eau. On est prêt à bloquer la circulation pour les prochaines 24 heures.
Depuis des semaines, les étudiants demandent toujours la transparence totale sur la catastrophe de Novi Sad. Sifflé autour du cou, Dušan, 22 ans, agite une banderole contre la corruption.
Après les 15 personnes tuées à Novi Sad, on s'est tous dit « ça suffit, il faut qu'on fasse notre part ». Ces blocages, c'est notre façon de montrer qu'on va faire de notre mieux pour changer les choses.
Sur l'autoroute qui passe en dessous du pont, la plupart des voitures klaxonnent en solidarité avec la contestation. À 45 ans, Ivan est venu en famille manifester aux côtés des étudiants.
Ces blocages sont la meilleure chose qui puisse arriver. En Serbie, les institutions ne font tout simplement pas leur travail. Les étudiants ont 100% raison.
Depuis le début du mouvement, plusieurs étudiants ont été attaqués et des manifestantes ont même été renversées lors des blocages de rue. Des provocations du régime, selon Anna, étudiante en photographie.
Tous ces incidents ne font que révolter encore plus les gens et cela les pousse à descendre dans la rue et à organiser de nouvelles manifestations.
De plus en plus sous pression, le président Vučić doit à nouveau prendre la parole ce soir. Il a pour l'instant exclu toute démission de son gouvernement.
Louis Seyé, notre correspondant en Serbie. Le chômage effectue sa plus forte remontée en une décennie en dehors de la crise du Covid. Au quatrième trimestre de 2024, selon les chiffres du ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail a augmenté de 3,9% par rapport au troisième trimestre. Sur un an, Annabelle Grelier, le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 3,5%.
Alors que les suppressions d'emplois chez Michelin, Auchan ou encore Valeo ne sont même pas encore comptabilisées dans les statistiques de la DARES, les centaines de plans sociaux moins médiatiques se traduisent, eux, sans équivoque, en chiffres, dans ces mauvais résultats de fin d'année 2024. Le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a atteint ainsi les 3 138 000, au quatrième trimestre, soit 117 000 chômeurs de plus sur un trimestre. Chez les jeunes de moins de 25 ans, l'augmentation va même jusqu'à 8,5% en cette fin d'année. Ces mauvais résultats pour ce dernier trimestre confirment une tendance amorcée au printemps d'un vrai retournement du marché du travail. Avec la disparition progressive des aides Covid, on assiste à la multiplication des faillites d'entreprises. Pour ne rien arranger, l'instabilité politique inquiète les milieux économiques qui freinent l'investissement et gèlent les embauches. Sans budget, pas non plus de politique de l'emploi claire et définie. Bref, 2025 ne commence pas sous les meilleurs auspices concernant le chômage, d'autant que depuis le 1er janvier, la loi Plein Emploi se met en œuvre. Tous les bénéficiaires du RSA seront alors inscrits automatiquement à France Travail. Quelques 1 200 000 personnes supplémentaires vont rejoindre le service public de l'emploi.
Annabelle Grelier. Le marathon budgétaire se poursuit avec aujourd'hui la reprise des discussions sur les comptes de la Sécurité sociale à l'Assemblée devant la Commission des affaires sociales. Et jeudi, 7 sénateurs et 7 députés doivent se réunir en commission mixte paritaire pour rechercher un compromis sur le budget 2025 de l'État. À l'approche de cette échéance, les dirigeants d'universités tentent de se faire entendre. Ils sont inquiets de la baisse de leurs crédits prévus cette année. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Ali Kiefer.
Faute de moyens, ils craignent de devoir fermer des antennes universitaires, Hakim.
Oui, entre la masse salariale, avec la hausse des points d'indice pour augmenter les salaires des fonctionnaires, ainsi que l'inflation des coûts de l'énergie, il manque actuellement 500 millions d'euros au budget des universités. Alors si rien n'est fait par le gouvernement, 3000 postes d'enseignants-chercheurs et administratifs pourraient être supprimés dans les universités dès l'année prochaine, prévient Dean Lewis, vice-président de France Université, qui dirige également l'université de Bordeaux.
Donc si on n'a pas de recettes pérennes pour les financer, à un moment ou à un autre, les établissements vont être amenés à supprimer ces postes pour financer ces surcoûts. Et ça se traduit par une dégradation des conditions d'encadrement de nos étudiants, des conditions d'exercice de la recherche, et puis des fermetures de filières ou des fermetures d'antennes donc au niveau des universités, ce qui va à l'encontre du besoin aujourd'hui de la nation en termes de réindustrialisation, de souveraineté économique et de leadership scientifique.
Des fermetures de filières et de classes de télé, travaux dirigés, qui concerneront toutes les disciplines, notamment celles dans les licences sous tension, comme par exemple droit, STAPS ou encore psycho. Une situation qui pourrait également pousser certaines d'entre elles à augmenter dès la rentrée prochaine leurs frais d'inscription, craint Elisa Mangiol, porte-parole de la FACH, premier syndicat étudiant, qui n'exclut pas une mobilisation dans la rue.
Il y a aussi un énorme risque actuellement que les frais d'inscription augmentent et pour nous c'est inadmissible quand on voit qu'aujourd'hui 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. C'est une question qui se pose pas pour nous parce que nous on attend un financement et effectivement s'il n'y a pas assez de financement ça va être très dangereux pour les universités.
Enfin preuve des grandes difficultés que rencontrent actuellement les universités. L'année dernière, 50 d'entre elles étaient déficitaires contre seulement 15 en 2022, un chiffre qui pourrait même atteindre les 60 dès cette année, estime France Université.
Hakim Kasmi, le Rassemblement National se prépare à d'éventuelles législatives anticipées. Seul un retour aux urnes permettra de dégager un cap clair et une majorité claire, déclare Jordan Bardella. Pour le président du RN, une dissolution de l'Assemblée Nationale est souhaitable dès qu'elle sera institutionnellement possible, c'est-à-dire en juillet. Lors de ses vœux à la presse, Antoine Marette, il est également revenu sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis et il est partagé entre admiration et prudence vis-à-vis du président américain.
Lui c'est lui, moi c'est moi, pourrait-on ainsi résumer les propos de Jordan Bardella sur Donald Trump. Les deux hommes ont des valeurs communes, mais le Rassemblement national se méfie de l'impérialisme américain.
Moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le patriotisme de Donald Trump et pour la volonté de défendre les intérêts de son pays, d'abord et avant tout. Mais je n'ai pas le syndrome du petit frère. Et je considère que le rôle de la France n'est pas de se positionner à côté ou à l'ombre d'une grande puissance. Nous avons toujours été attachés à l'indépendance de la France, à son rôle de puissance d'équilibre et à sa position de non-aligné dans les rapports internationaux.
Jordan Bardella estime que ce sont surtout l'Allemagne et l'Italie qui pourraient pâtir d'une politique de rétorsion commerciale des États-Unis, tout en reconnaissant du bout des lèvres que les agriculteurs français pourraient être durement impactés, ce qui ne l'empêche pas d'approuver le nationalisme comme mode de fonctionnement.
Je pense que dans ce nouveau monde, les faibles disparaissent. Et pour dialoguer avec les grands dirigeants de ce monde, avec les dirigeants patriotes, parfois nationalistes, il faut avoir du caractère. Sinon, eux vous mangent et vous disparaissez.
Selon Jordan Bardella, l'élection de Donald Trump ne doit pas être perçue comme un malheur, mais plutôt comme un défi sur le plan économique.
Antoine Maret. L'Ille-et-Vilaine est placée en vigilance rouge pour crue après les importantes précipitations de la dépression Herminia qui ont provoqué des inondations sans précédent depuis 40 ans à Rennes et ses alentours. 7 autres départements de l'Ouest sont placés en vigilance orange crue. En outre, 8 départements littoraux sont placés jusqu'à demain 6h en vigilance orange pour vagues submersion du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques. Demain, des averses toucheront une grande partie du pays avec toujours des risques de crue sur le Nord-Ouest et l'ensemble de la façade atlantique placée en vigilance orange pour vagues submersion. Seule la Côte d'Azur restera sous le soleil. Les températures minimales varieront entre 1 et 8 degrés au petit matin, entre 8 et 16 l'après-midi, jusqu'à 19 en Corse.